Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
On se retrouve avec plaisir pour parler bande dessinée, bien sûr, sur notre antenne, avec une sortie Futuropolis que nous avons beaucoup appréciée tous les deux. Alors à vrai dire, c'est vous qui m'en avez vanté les mérites tout d'abord. J'étais un peu hésitant et j'ai fini par être conquis. Il s'agit du dernier album de Nicolas Dumonteuil, Pas de pitié pour les Indiens. Alors comme ça, ça ne nous dit pas grand-chose, sinon qu'il est question d'Indiens, effectivement, dans cette histoire, mais d'une façon assez spécifique. Nous allons en savoir plus tout de suite avec vous, Thierry. Tout d'abord, parlez-nous de Nicolas Dumonteuil, qui a été révélé en particulier à travers un album qui a connu un succès plus que d'estime.
Oui, vous faites allusion à l'album qui s'appelait « Qui a tué l'idiot ?»
Exactement.
Qui était primé à Angoulême, dès sa parution, qui a révélé un auteur singulier qui, en préparant l'émission, s'est penché sur sa bibliographie et qui était très productif dans des genres très différents. Alors, on a essayé de trouver un fil rouge dans cette bibliographie, celle de Nicolas Dumonteuil. Et c'est un mot qui s'est imposé à nous, c'est le mot « fable ». C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques narratifs et graphiques et qui explore des voies fort différentes. Mais le mot fable, je pense, correspond très bien à son itinéraire. Il nous raconte des histoires toujours un peu décalées de la, enfin, souvent décalées de la réalité, qui nous parle du Bigfoot, qui nous parle des ogres, bien d'autres choses, du land des volants, jeu de mots.
Maître Capello.
Il emploie le mode de la fable pour nous raconter quelque chose où les émotions sont toujours très fortes. Tout est intense dans son œuvre, ne serait-ce que quand on ouvre un de ses albums, on voit la force des couleurs. Les couleurs sont toujours extrêmement pétantes, et, si je puis m'exprimer ainsi.
C'est ce qui pourrait d'ailleurs faire un petit peu peur. Hein,
mais oui.
Ça vaut le coup d'y rentrer.
Ces albums font un peu peur. Mmh. On se dit, mais qu'est-ce donc que cela ?
Il y a un côté aussi un peu grinçant dans ce qu'il
raconte. Oui, alors il y a souvent un humour, alors souvent l'absurdité, souvent un humour grinçant, noir, voire franchement effrayant. On parlait de L'Ogre Amoureux, un de ses derniers albums que j'avais adoré, qui est vraiment un conte de fées, mais terrifiant, hein, quand on voit littéralement un ogre, un vrai, qui mange littéralement les personnages, enfin des humains, des animaux, tout, il mange tout. Et ça fait peur, littéralement. Donc, ce qui est un compliment de ma part.
Je me demande quand même ce que c'est qu'un ogre, un vrai, hein, entre nous, Thierry.
J'espère ne jamais en rencontrer.
Alors ici, nous partons vers l'enfance. Nous partons aussi dans le sud-ouest de la France, il y a un certain nombre d'années déjà.
Oui, 1976, l'été de la canicule, et l'été de l'impôt sécheresse aussi.
On en a des souvenirs, enfin pour certains.
Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser à une œuvre autobiographique. On a regardé un peu les dates de naissance de Nicolas Dumonteuil, ça correspondrait grosso modo, c'est tentant d'y penser. On a pensé à une référence littéraire très laudative, mais je pense méritée, j'imagine méritée, enfin je l'affirme méritée. On pense à Pagnol, avec sa description de l'enfance, avec ce qui fait tout l'intérêt de l'enfance et toute sa singularité, c'est-à-dire la première fois qu'on éprouve tel ou tel sentiment, la force de ces sentiments, l'exacerbation de ces sentiments. On disait que Nicolas Dumonteuil explorait des côtés obscurs, des côtés sombres. On les retrouve dans cette chronique qui est la plupart du temps légère, mais qui frôle le drame, qui le frôle dès le début, puisque dans ce petit village du sud-ouest, on va suivre une bande de gamins. Alors forcément, il y en a qui sont un peu à la traîne, puis il y en a qui sont beaucoup plus délurés, voire casse-cou, voire prêts à faire toutes les bêtises possibles. Notamment
beaucoup
le chef de la bande.
Voilà.
Il a gagné de l'argent, il a gagné 10 francs.
C'est beau.
Oui, c'est beau. À l'époque, c'était beaucoup, surtout pour des enfants. Et avec ces 10 francs qu'il a gagné en tuant des chats. Alors, c'est probablement vrai. En aidant un paysan à tuer des chats, donc déjà, ça fait viril. Hein. En tout cas, ça impressionne les copains. Il a acheté ce qu'on appelle un mammouth, alors qu'il n'est pas l'animal auquel on peut penser, qui n'est pas non plus l'enseigne de supermarché à laquelle on peut penser aussi. C'est un pétard, mais c'est un pétard géant.
Oui, pour un pétard, c'est gros.
Oui, et qu'est-ce qu'on fait avec un pétard géant? Qu'est-ce qu'on peut faire exploser d'intelligent? Des pousses de vache.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont testé, effectivement, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs.
Et c'est ce qu'ils font. Dans l'affaire, il y a un peu celui qui est à la traîne dans la bande qui s'appelle, alors je suis désolé, si
pour
j'ai
vous,
pas le bon rôle,
désolé,
il s'appelle Thierry.
Voilà.
Nititi.
Et il s'en prend plein.
Plein les vêtements. Donc il faut nettoyer les vêtements, ça ne marche pas. Du coup, il tombe dans la rivière, c'est encore pire, il est mouillé, enfin bref. Dans toutes ces péripéties, il se trouve à ouvrir l'enclos des vaches qui s'échappent sur la route. Enfin bref, c'est la catastrophe absolue. On sent que les événements leur échappent. Ils ne maîtrisent plus rien. Ils vont croiser à cette occasion la route de deux frères marginaux, fortement alcoolisés, les frères Ardaillou, qui vont les initier à l'agneaule, un petit canard dans l'agneaule. Donc ils rentrent chez eux complètement cuits.
Vous savez ce que c'est un canard, hein?
Je crois savoir.
Oui, et je pense que nos auditeurs savent aussi. Donc, manifestement, à consommer avec modération.
Ah, voilà, avec beaucoup de modération. Bah, conséquence dramatique de cet incident, c'est qu'une vache est sur la route. Un des frères Ardaillot est au volant, ce qu'il n'aurait pas dû faire, surtout pas dans son état fortement imprégné. Il n'aurait pas dû prendre le volant et il va percuter la vache. La vache meurt, mais le frère aussi.
La ceinture donc, de sécurité n'était pas voilà. obligatoire à l'époque.
Donc, culpabilité des enfants, on les a tués. Il va revenir nous hanter. Effectivement, il voit son fantôme. Enfin, il croit le voir. Après cette séquence d'ouverture, enfin qui va être un fil rouge dans l'histoire, hein, parce que le fantôme, il revient à intervalles réguliers, puis c'est... Ah, il ne faut pas que j'en dise trop, mais la façon dont ils vont surmonter ce traumatisme, ça va être une façon de grandir aussi. Ça va être un peu un défilé de personnages. Alors, si on était méchant, on dirait que c'est une galerie de personnages obligés. Ce qu'on peut rencontrer, ce qu'on imagine rencontrer, ou peut-être pas tous rassemblés au même endroit, ce qu'on peut rencontrer à cette période. Il y a le couple de post-hippies, donc ils vivent sous un tipi.
Et ils cultivent des choses bizarres.
Ils élèvent leurs enfants, surtout en dehors de l'école. Ils les affament même légèrement. Enfin, ils ont une conception de l'alimentation et de l'éducation qui est, on va dire, typique de l'époque. Il y a le père du protagoniste principal qui est l'instituteur du village. On le sent déjà, il est bienveillant, il est à l'écoute. C'est l'instituteur moderne. Ce que n'est pas le curé. Alors, c'est un curé à l'ancienne, éructant, habillé à l'ancienne. On a le raciste qui a fait du commerce.
Mais qui a vécu la guerre.
Alors là, c'est un des aspects dramatiques de cette histoire. C'est un aspect qui n'est pas anecdotique du tout. Parce que dans ce village, il y a un couple, il y a une famille maghrébine. Il ne faut surtout pas que je raconte...
Pas tout, non,
bah non,
pas
non,
tout.
Non, non. Juste mais il va y avoir un mini-drame. Et ça va être l'occasion aussi, lors d'une fête villageoise, que les sentiments racistes éclatent. Mais il faut se rappeler qu'on est en 76. La guerre d'Algérie est encore très récente. Un récit qui est fortement daté. Et en même temps, toutes les choses qui sont évoquées, est-ce qu'elles ont tellement changé? Est-ce qu'elles ne sont pas moins actuelles? Les tensions communautaires, les questions sur l'éducation, l'état d'esprit des enfants, c'est à la fois daté et intemporel. C'est l'album le plus classique, je pense, de Nicolas Dumonteil, ce qui n'est pas péjoratif dans mon esprit. Je dirais qu'avec Qui a tué l'idiot, qui reste un album parfait, selon moi, et celui-ci, je vois deux portes d'entrée idéales dans l'univers de Nicolas Dumonteil. Ce que je retrouve toujours, c'est la qualité d'écriture. Alors, l'album, en fait, est souvent commenté en voix off. J'imagine que cette voix off, c'est le protagoniste de l'histoire, le petit gamin devenu grand, devenu adulte, qui se retourne sur son passé. C'est extrêmement bien écrit, c'est souvent très drôle, c'est très fin, c'est très émouvant. C'est extrêmement bien dessiné avec ce dessin très expressif et ces couleurs qu'on mentionnait au début de la chronique. Bref, c'est une assez remarquable réussite.
Mais il y a une question qui me brûle les lèvres, Thierry, et les Indiens dans tout ça. Alors, on ne va pas raconter la fin de l'histoire,
monsieur. Ah ben non, parce que c'est une surprise.
Pour ma part, je suis un peu rebuté par le dessin de Dumonteil, et surtout par ses couleurs, parce que effectivement, c'est très pétant. Et pourtant, une fois plongé dans l'album, eh bien, ça coule tout seul.
C'est une réaction qu'on peut avoir, c'est une réaction qui est compréhensible, parce que quand on est lecteur de bande dessinée, qu'on soit lecteur occasionnel ou régulier, il y a une première impression, on saisit l'album, on voit la couverture, on l'ouvre, on a une première réaction. Dumonteil, il nous empoigne littéralement par son dessin, ses couleurs. Il ne nous laisse pas le choix, il nous prend par le col. Alors ça peut nous violenter. Et il faut aller au-delà. La preuve que cet album est réussi, c'est que dès qu'on commence à le lire, bah, on est pris. On se pose plus de questions et tout paraît cohérent. C'est pourquoi j'incite vraiment les gens à passer une première impression qui est... Oui, c'est vrai que je ne vais pas dire qu'on a envie de reculer mais, parce que les couleurs vous sautent au visage, mais on peut être un peu saisi, effectivement. Je comprends cette réaction, mais j'encourage à aller au-delà.
Alors, en plus, le problème avec cet album, c'est que quand on arrive à la fin, on a envie que ça continue. En tout cas, moi, c'est la difficulté que j'ai rencontrée. Je me suis dit, ah mince, c'est déjà fini.
C'est quoi. Le meilleur compliment qu'on puisse faire.
Je crois. Voilà, on vous conseille donc cette très très bonne lecture, hein, excellente lecture chez Futuropolis avec Nicolas Dumonteil, donc à la baguette, hein, aussi bien au dessin qu'au scénario. Un scénario très probablement, on vous l'a dit, inspiré de sa propre expérience. Il a dû rassembler toute une série d'anecdotes, très probablement, donc pour nous raconter cela. Ça s'appelle « Pas de pitié pour les Indiens ». Là encore, peut-être ne vous fiez pas totalement au titre, hein. Mais dites-vous que vous allez faire un voyage en enfance dans les années 70 et que ces années 70, comme vous le disiez là encore Thierry, eh bien elles nous parlent aujourd'hui, même au 21e siècle. Merci beaucoup, on se retrouve bientôt pour d'autres lectures tout autant savoureuses.